Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue sur le pont du cargo de Radio Caroline qui, pour ce voyage, va sillonner les débuts de la vie, de la carrière et du succès du réalisateur Quentin Tarantino, auteur hautement cinéphile de 9 films qu'on dit violents, spirituels, grossiers, irresponsables, réjouissants, polémiques et quoi qu'il en soit truffé de références à la culture pop, de Reservoir Dogs à Django Unchained en passant par Kill Bill et Pulp Fiction. Et même si vous ne goûtez pas ses films, son style, restez à bord, car suivre Tarantino à 15, 20 ou 30 ans dans ses influences et passions cinématographiques, c'est se replonger dans des films formidables de toute époque et tout genre, dont on va écouter des extraits, et découvrir au final un homme plutôt touchant, et pour qui tout bascula un jour de 1992. En janvier 1992, à Park City, dans l'Utah, au centre-ouest des États-Unis, se tient comme chaque année le Sundance Film Festival, événement majeur dédié au cinéma indépendant. Le mardi 21 janvier est projeté pour la toute première fois Reservoir Dogs, le premier film d'un réalisateur de 28 ans nommé Quentin Tarantino.
Put the gun down.
Hey, your name, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Pink.
Why am I Mr. Pink?
Who cares what your name is?
Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name.
Let's go to work.
Well, I don't know why I came here tonight.
What happens if the manager won't give you the diamonds?
Cut off one of his fingers. The little one.
I'm so scared in case I fall off the chair.
If they hadn't done what I told them not to do, they'd still be alive.
You're acting like a first-year thief. I'm acting like a professional.
Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, and Michael Madsen. They're the Reservoir Dogs.
Hey, Joe, want me to shoot this guy?
Ce mardi 21 janvier 1992, Tarantino est très nerveux. Ce qui peut se comprendre, du Sundance Festival dépendra la carrière de son film et, d'une certaine manière, la sienne. Et de ses propres mots, ce fut un putain de désastre. Tarantino racontera que pas mal de spectateurs ont quitté la salle avant la fin, lors de cette projection, et parmi ceux-ci, le maître de l'horreur, Wes Craven. Et comme si cela ne suffisait pas, des problèmes d'électricité surviendront vers la fin de la projection. Tout à coup, raconte-t-il, les lumières se sont allumées, les gens se sont dit « merde, qu'est-ce qui se passe ?» Puis elles se sont éteintes. Arrive la scène où tout le monde pointe son arme sur tout le monde et, comme si c'était fait exprès, au plus fort de cette scène, il y a une panne de courant. Un putain de désastre. Heureusement, une seconde projection sera organisée une semaine plus tard devant les pontes de l'industrie du cinéma, dont de nombreux producteurs exécutifs et agents artistiques, et cette fois, sans accroc. 4 mois plus tard, c'est à Cannes que le film sera projeté. En cette année 1992, le festival offrira la Palme d'Or aux meilleures intentions de Billy Auguste, le Grand Prix du jury aux Enfants volés de Gianni Amelio et le prix de la mise en scène à Robert Altman pour The Player. Rien pour Reservoir Dogs. Mais pas étonnant, il était programmé hors compétition, dans aucune des catégories et en séance spéciale à minuit, horaire que le délégué général du festival, Gilles Jacob, a jugé plus approprié à ce que l'on considère comme un déferlement de violence. Si le film emballe la plupart de ceux qui l'ont vu cette nuit-là, Tarantino n'est pas à ce moment une star, pas davantage une célébrité, ni même le phénomène de la croisette. N'empêche, dès le lendemain, un journaliste de la RTBF qui a beaucoup aimé Reservoir Dogs lors de cette séance de minuit souhaite rencontrer son auteur et lui demande tout d'abord quand lui est venue cette histoire. Réponse de Tarantino, enthousiaste, voire excité, vous allez l'entendre. L'idée est née il y a 2 ans, j'écris le scénario en 4 semaines et 3 mois plus tard, j'avais l'argent pour tourner le film.
Okay.
Since when did you wish to make that film?
I got the idea about 2 years ago and I wrote it in 4 weeks. And we literally got the money to make it, you know, allowed to make it in about 3 months after that. So it's just like, boom.
Toujours dans cette interview réalisée par la RTBF quelques heures après sa projection à Cannes, Quentin Tarantino revient sur le rôle qu'a joué Harvey Keitel, acteur fétiche de Martin Scorsese, mais pas seulement comme comédien. En effet, il faut savoir que très vite après que le scénario lui a été remis par un ami, Harvey Keitel a non seulement donné son accord, ce qui enclenchera l'arrivée d'un petit budget pour le film, mais s'est montré très disponible, impliqué, proposant même à Tarantino et à sa petite équipe d'aller à New York pour faire quelques session de casting et de tout payer lui-même, avion et hôtel, Tarantino habitant Los Angeles et pour l'heure étant fauché, comme il le raconte à notre journaliste belge.
Harvey was like knocking himself out, making himself available to us. He was involved in the casting process and everything. And what he did was he said, look, we should go to New York because we didn't have any money. We were based out of Los Angeles. And we said, I was like, broke and the producer was broke, no money. And they said, we should go to New York and have some casting sessions. And finally, he just said, look, I'm going to pay for us to go to New York. I'm going to send you guys out there with me. I'm going to put you up in a hotel and we're going to have and I'm going to arrange it all. And we're going to have, a weekend of New York casting. And it was like, once he did that, it was like, okay, Harvey, you got to be one of the producers. And which Harvey said, it's about time. I was wondering when you were going to figure it out. What took you so long?
Sur la question des influences du réalisateur pour ce film, Tarantino cite John Carpenter, quelques livres, mais aussi les films de gangsters, c'est ce qu'il dit, du français Jean-Pierre Melville avec Alain Delon. Delon, qu'il imaginait bien appeler ses acolytes dans un film par des noms de couleurs, ce qui lui a donné l'idée de le faire dans Reservoir Dogs.
Is a big influence on the film is John Carpenter's remake of The Thing. Other influences are just different novels and the French New Wave film, the French gangster films of Jean-Pierre Melville. Gigantic influence. I can't tell you how much. His films are fantastic. And he's the reason that the guys have color names, because I just thought it was just that special French tough guy existentialism that he did so well. I could see Alain Delon, saying, I'm Mr. Blonde,
Great. Thank you very much.
Thank you.
I liked your film very much.
Oh, thank you very much. Did you see it last night or this afternoon?
Last night.
Oh, cool. Good deal.
Au fait, j'y pense, qui se trouvait également en 1992 au Festival de Cannes, dans la section Semaine de la Critique.
Ah, ça c'est une bonne surprise.
Tu vois, il y a un barème quand tu laisses un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids normalement. Et les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc c'est une fois le poids. Une vieille dame par exemple ou un vieil homme, cinq fois le poids. Les os sont poreux déjà. Tu vois, généralement, en début de mois, je me paye un petit facture. Ce qui me permet, par la même occasion, de repérer les vieux qui ont de l'argent.
Nous effectuons un reportage sur les vieilles personnes et la solitude dans les grandes cités.
Oui.
Auriez-vous l'obligeance de répondre à quelques questions, s'il vous plaît?
Je veux bien.
Coupe ça, imbécile!
C'est arrivé près de chez vous, bien sûr, de Rémi Bellevaux, André Bonzel et Benoît Poulvord. On pourra dire qu'il y a comme un air de famille. C'est arrivé près de chez vous, pour qui ce Cannes sera aussi un accélérateur, comme je l'ai raconté ici, il y a quelques saisons. Pour en revenir à Reservoir Dogs, entre Cannes en mai et sa sortie officielle quelques mois plus tard, en septembre 1992, le film aura fait beaucoup parler de lui, méritant dès lors un sujet dans le JT.
Les protagonistes sont en place, le casse peut commencer, mais un traître s'est infiltré, et c'est l'horreur. Le sang va gicler, dégouliner sur les impeccables costards noirs.
Fucking touch me, poor man.
Construit comme une tragédie, ce polar respecte l'unité de temps et de lieu et se divise en actes ou flashbacks.
You wanna shoot me, you little piece of shit? Go ahead, take a shot. Fuck you, White. I didn't create this situation, I'm dealing with it. You're acting like a first-year fucking thief. I'm acting like a professional.
Ce qui m'a plu, c'est l'idée d'avoir le moins d'effets de cinéma possible, pour que vous, spectateurs, vous vous sentiez également coincés dans cet entrepôt, pour que vous partagiez leur angoisse. Où sont passés les autres? Est-ce que les flics vont arriver? C'est cette sensation de claustrophobie qui m'a paru intéressante.
De la violence insoutenable, oui, mais qui n'occulte en rien les impressionnantes qualités de ce film. Humour dévastateur, dialogue percutant, des acteurs éblouissants et attachants, et surtout une originalité et une personnalité évidentes.
police brutality.
You know how to handle that situation.
Un réalisateur qui renouvelle le cinéma américain.
Lors de cette sortie, Télérama s'enflammera Harvey Keitel, Tim Roth et Michael Madsen qui tous surjouent avec un naturel désarmant, échappent à la caricature. Et quand lors du dénouement de corps étendus, exsangues, tant en grimaçant de douleur comme dans une sorte de ralenti, de s'appuyer l'un contre l'autre pour se donner un dernier coup ou peut-être une caresse d'adieu, on est à la frontière exacte du dérisoire et du sublime. Dans Le Soir, Luc Honoré notera un polar de violence et de vitesse dans lequel des gangsters en costume mortuaire misent des cercueils sur la roulette de leur destin. Film obsessionnel et de mise en scène, Réservoir Dogs place le spectateur dans la peau d'un gangster et souligne combien notre réalité est devenue aussi inhumaine que la pire des fictions. Et même quand le critique du Monde se montre, lui, sceptique sur le film, il parie sur le réalisateur. Je cite: quelques ablations d'organes, crémations et révolverisations plus tard, on a plus grand intérêt pour cette chorégraphie macabre, mais déjà l'envie de voir le prochain film du réalisateur. Quentin Tarantino est né dans le Tennessee le 27 mars 1963, fils unique de Connie McHugh et de Tony Tarantino. Mais ce dernier, qui cherche à devenir acteur, quittera le foyer avant même la naissance de son fils. Quentin ne manquera jamais de lâcher « Je n'ai jamais connu mon père, il n'a jamais fait partie de ma vie ». Peu après son arrivée avec son fils à Los Angeles, la mère de Tarantino épouse un musicien, Curtis Zastupil, qui emmènera très régulièrement le jeune garçon voir des films a priori pas de son âge, comme Les Trois Visages de la Peur de Mario Brava, sorti aux États-Unis sous le titre Black Sabbath, et qui sera entre parenthèses à l'origine du nom du groupe d'Ozzy Osbourne.
This is the night when fear and horror walk hand in hand.
This is Black Sabbath.
Cela dit, la toute première influence du scénariste en herbe Tarantino sera Cours après moi, shérif, Smokey and the Bandit, avec Burt Reynolds, que l'adolescent voit à sa sortie en 1977, alors qu'il a 14 ans. Imaginez un flic bedonnant et sûr de lui qui sort un homme d'âge mûr presque nu d'une caravane rose, tenu par des prostituées, genre sosie de Dolly Parton, pensant qu'il s'agit d'un bandit très recherché, alors qu'il n'est autre qu'un capitaine de police, comme va le lui signifier un collègue arrivé en catastrophe.
I don't care if you're the governor of Texas. You're making a big mistake.
What's all this about?
Boy, hello, officer. Glad you're here to assist me. My name is Sheriff Buford T. Justice. I have just apprehended the bandit.
No, sir. You just apprehended my captain.
Cours après moi, shérif, un film donc qui inspirera au jeune Quentin son premier scénario titré Captain Pitchfuzz and the Anchovy Bandit. Mais c'est peu dire que ce script ne convaincra pas son entourage familial, sa mère se moquant de ses soi-disant talents d'écriture précoce, ce qui le blessera durablement, Tarantino jurant de ne jamais partager un dollar de sa fortune avec elle. L'année suivante, il est privé de sortie par sa mère pour avoir volé dans un magasin un roman policier, ses seuls échappatoires autorisés étant la fréquentation du théâtre de Torrance, au sud-ouest de Los Angeles, où ils vivent. Après quoi, Quentin abandonnera le lycée, sa mère lui signifiant qu'il doit donc s'assumer financièrement. Ce qui veut dire qu'en 1979, à 16 ans, mentant sur son âge, sa grande taille faisant diversion, il décroche un job d'ouvreur dans un cinéma porno de Torrance, qui fait partie de la chaîne Pussycat Theatre. Mais le plus minable d'entre eux précisera-t-il. À ce sujet, au sujet du porno, lors d'une interview, Tarantino soulignera la justesse avec laquelle le film Boogie Nights de Paul Thomas Anderson dépeint l'angoisse du milieu du porno lors de l'arrivée de la vidéo pour remplacer la pellicule vers la fin des 70s. C'était la fin d'une époque et je l'ai vécu. Après 1979, la vidéo prendra le dessus sur tout, dit Tarantino. Dans la foulée, le jeune homme bossera dans un vidéoclub, Video Archives. On m'a engagé parce que, même si j'étais très jeune, j'étais déjà un expert en cinéma. Et pendant 5 ans, je ne ferai rien d'autre que regarder des films au lieu de trouver un emploi stable. Ce sera sa formation, sa seule formation, il n'y en aura pas d'autre en tant que réalisateur. Entre-temps, Tarantino a fait une autre découverte au niveau cinématographique, celle de Rio Bravo d'Howard Hawks, avec John Wayne et Dean Martin, film qui deviendra la première référence de sa sainte trinité cinéphilique. Il montrait Rio Bravo à ses conquêtes potentielles, ai-je appris, et si elle n'aimait pas, la fin de leur relation était proche.
Tired, aren't you, John T? I can fix you a nice hot bath.
All I want is a drink.
Then, this is all I can do for you?
Where are you going?
Get your hands off.
I said, where are you going?
You got no use for a man you can't depend on. One bad night and I'm done for.
Quant aux deux autres branches de sa fameuse trinité, il s'agit de Taxi Driver de Martin Scorsese et de Blowout de Brian De Palma avec John Travolta.
Accident, plain and simple, accident.
It was not an accident. I was there. That tire was shot out. I heard it, I recorded it.
You pulled the girl out of that car? Well, I would like for you to forget about her. Forget you ever saw her.
Last night I was recording some sounds.
You recorded the accident?
Yes, I did. Except I don't think you had an accident.
Aren't you getting a little paranoid here?
Blowout, sorti en 1981.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
La culture cinématographique du futur réalisateur Quentin Tarantino passera aussi par une salle de Los Angeles, le New Beverly, à l'origine dédiée au cinéma d'exploitation, donc aux films érotiques ou violents à petit budget mais censés rapporter gros, et offrant en supplément des numéros de striptease. Une salle qui, en 1978, se relance en proposant un double programme, un ticket pour deux films et le plus souvent des reprises. Tarantino s'y rend pour la première fois en 1981, ce qui lui permet enfin de voir sur grand écran un film de Jean-Luc Godard, et même deux, la double séance proposant Le Petit Soldat, loin d'être son meilleur film, mais pas mal quand même, c'est Tarantino qui parle bien sûr, et Bande à part, là en revanche, ça le faisait, j'ai adoré.
Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux.
Tout ce qui est nouveau est de ce fait automatiquement traditionnel.
Dans ce Bande à part de Jean-Luc Godard, on trouve aussi une scène de danse mémorable que vous retrouverez sur le net et qui a influencé l'une des scènes cultes de Pulp Fiction. Bande à part, film de Godard qui donnera plus tard son nom à la société de production de Tarantino, A Band Apart. Pour en revenir à cette salle de cinéma, ayant appris que le New Beverly programmait régulièrement Reservoir Dogs en séance de minuit, Tarantino y débarquera un soir sans prévenir avec les acteurs du film, se soumettant très naturellement aux questions des spectateurs. Et ce n'est pas tout, quand le cinéma aux abois financièrement menacera de tomber le rideau pour devenir un salon de coiffure, Tarantino en couvrira les pertes avant, en 2007, à la mort accidentelle de son propriétaire, de le racheter, laissant dans un premier temps à la famille une entière liberté de programmation, mis à part tout de même quelques suggestions. Aussi longtemps que je resterai de ce monde et gagnerai de l'argent, le New Beverly diffusera des doubles programmes avec des copies en 35 mm. À un moment, j'assumerai seul la bonne marche de ce cinéma, j'en serai le programmateur et ce sera formidable. Ce qui arrivera 7 ans plus tard, Tarantino se donnant pour mission d'y projeter Dixit, un cinéma populaire et démocratique avec un esprit bon enfant et en pellicule 35 mm grâce à laquelle subsistent les couleurs d'origine et plus subtilement le sentiment du temps qui passe. Une programmation bien souvent alimenté par l'impressionnante collection de films de Tarantino en bobine 35 mm. Pour l'anecdote, c'est dans ce New Beverly que Mélanie Laurent s'essaiera en apprenti projectionniste dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino.
Je suis désolé, Frédéric.
Donc, je me suis dit que j'allais monter et faire ce que je fais le mieux. Vous embêtez.
Et à voir la tête que vous faites, il semblerait que je n'ai pas perdu la main.
C'est tellement habitué à ce que les nazis vous lèchent les bottes que vous avez oublié ce que signifie mon nom.
Non, vous ne pouvez pas rester ici. Maintenant, allez-vous-en.
Frédéric, vous m'avez fait mal.
Ma foi, ça fait plaisir de voir que vous pouvez ressentir quelque chose. Même si c'est juste de la douleur physique.
L'origine de la culture cinématographique de Quentin Tarantino éclairée et sa carrière de directeur de salle évoquée, revenons à ses débuts dans le milieu du cinéma. Après avoir suivi quelques cours d'art dramatique à la James Best Theatre Company, Tarantino réalise en 1987 un film qu'il a coécrit pendant qu'il bossait dans son vidéoclub, My Best Friend's Birthday. Mais ce qui devait être un long métrage amateur en Super 8 puis 16 mm, noir et blanc, d'un budget de $5,000, restera inachevé après la perte de quelques bobines, ce qui n'empêchera pas Tarantino de monter tout de même quelques scènes.
You think you might be interested in something like that?
As sure as mine.
Oh, yeah, this is great. Oh, this is just, I'm reeling. Oh, this is just fantastic.
Au début des années 90, Quentin Tarantino sera encouragé par un producteur rencontré lors d'un barbecue à poursuivre l'écriture de scénarios, quoi qu'il en coûte. Et c'est comme cela que, s'il a déjà en tête ce qui deviendra Reservoir Dogs, il se fait d'abord connaître dans le métier comme le scénariste de True Romance, qui sera réalisé en 1993 par Tony Scott, et de Natural Born Killers, filmé un an après par Oliver Stone, et dont, contrairement à la réalisation de True Romance, fidèle à son script, Tarantino désavouera la réécriture. Deux films qui, en tout cas, partagent un même regard singulier, esthétisant, voyeur et gorgé de dérision sur la violence ordinaire et qui sortiront après Reservoir Dogs, car entre-temps, Quentin Tarantino a enfin pu réaliser son film dans les conditions et avec la réception critique et publique racontée au début de ce récit. Et si vous l'avez pris en cours de route, le podcast sur toutes les plateformes s'impose absolument. Reservoir Dogs, qui devient culte en peu de temps, est celle l'union de Tarantino avec le studio Miramax des frères Weinstein, dont le tristement célèbre Harvey, lequel financera le deuxième long métrage du réalisateur Pulp Fiction. En mai 1994, La Croisette s'offre donc à nouveau au réalisateur avec Pulp Fiction, mais cette fois en compétition officielle.
Je m'appelle Quentin Tarantino, c'est moi qui ai réalisé le film.
Hello? Salut, moi c'est Uma Thurman et dans Pulp Fiction, je joue Mia.
Bonjour, je suis John Travolta, je joue Vincent.
Pour une affiche alléchante, c'est une affiche alléchante. Réunie sur un même cliché, l'un des réalisateurs les plus en vogue du moment, une star hollywoodienne du box-office, une figure mythique des années 80 et une jeune première qui a le vent en poupe. Avec eux, Cannes découvre Pulp Fiction, du nom de ses séries noires publiées dans les magazines bon marché des années 50. On y trouve les clichés de série B, boxeurs, voyous, souteneurs et petites pépées, mais revus et corrigés par la plume de Quentin Tarantino.
On les a vus des milliards de fois, ces personnages. Le boxeur acheté qui se révolte et gagne son combat, le voyou chargé d'escorter la petite amie de son patron et qui en tombe amoureux, et on ne sait pas s'il va coucher avec ou pas, etc., etc. Mon idée, c'était de prendre ces histoires comme point de départ et d'emmener le spectateur ailleurs, sur la Lune, pourquoi pas.
La plupart des acteurs importants d'aujourd'hui voulaient ce rôle. Alors je prends ça comme un privilège, croyez-moi, d'avoir été choisi. Ce gars-là, Tarantino, il m'a rendu mon âme d'artiste. Il m'a offert la possibilité de rejouer vraiment.
2h30 de film à vous couper le souffle, clin d'œil, humour noir, dialogue ciselé, situation délirante, on appelle déjà ça le style Tarantino.
Du beau monde et de beaux films en compétition lors de ce festival de Cannes 1994, Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov, La reine Margot de Patrice Chéreau, Rouge de Christophe Kieslowski, Vivre de Zhang Yimou ou encore Journal intime de Nanni Moretti, tous pointés parmi les favoris, contrairement à Pulp Fiction. Et le lundi 23 mai, en début de soirée, Clint Eastwood himself, le président d'un jury qui compte également Catherine Deneuve et Lalo Schifrin, entre autres, prend la parole pour offrir la Palme d'Or à
Pulp Fiction.
Victoire d'un total outsider. Tarantino extatique et hilar bondit sur scène avec ses acteurs. Puis, alors que les applaudissements se tassent, une fan de Nikita Mikhalkov, qu'on disait bien partie pour décrocher la récompense, hurle depuis la salle un très sonore « Quel daube ! Non mais quel daube ! Fait chier !» Et juste avant ce dernier rire, un doigt d'honneur adressé par Tarantino à la spectatrice. Je ne m'attends jamais à recevoir de récompenses dans les festivals car je ne fais pas de cinéma pour rassembler les gens. Mes films à moi divisent, dira-t-il ensuite. Dans la presse, certains salueront une palme qui tue. D'autres, comme Le Monde, déplorant que ce film, à la désinvolture quelque peu arrogante, faite d'une accumulation de bons mots, de vedettes et de scènes choc, passe pour le fin du fin de la mise en scène. Quant au regretté critique cinéma de la RTBF Marcel Kroes, il ne mâchera pas davantage ses mots dans le JT de Jacques Brédal.
Le jury n'a pas fait que des heureux cette année. Pulp Fiction, le deuxième film d'un jeune réalisateur américain qui aime beaucoup l'hémoglobine et l'humour noir, suscite des critiques auprès de bien des professionnels. Alors vous êtes du nombre, Marcel Kroes ?
Oui, tout à fait. Je trouve que Pulp Fiction, c'est un film qui est, du point de vue esthétique, brillant, mais qui est moralement répugnant. Parce que c'est un film qui spécule sur quelque chose de détestable, qui est l'ultra-violence. Alors vous me direz, la violence, il y en a partout. Il y en a dans la vie, il y en a dans l'art. Il y a de la violence dans la tragédie grecque, dans Shakespeare, et dans le western, plus près de nous. Mais c'est l'attitude à l'égard de la violence qui est détestable dans ce film. C'est la complaisance dans la façon de montrer cette violence. Et je suis très étonné quand je vois que Clint Eastwood, qui était président du jury, a dit « c'est un film courageux ». Eh bien non, je suis désolé, ce n'est pas un film courageux. Et le jury, en donnant la Palme d'Or, n'a pas été courageux non plus. Il a cédé, pour moi, au snobisme et à la mode. Et quand j'entends Catherine Deneuve, qui était vice-présidente du jury, dire « oui, mais c'est très brillant, c'est une comédie noire ». Alors là, je suis désolé, mais est-ce qu'on peut m'expliquer ce qu'il y a de drôle, par exemple, dans une séquence où l'on voit le sang qui gicle et la cervelle de quelqu'un en gros plan qui gicle et puis qui se répand sur les coussins d'une voiture. Ça n'est pas drôle du tout, je trouve ça parfaitement répugnant.
Le film Pulp Fiction, sa palme et son énorme succès de 150 millions de dollars de recettes dans le monde changera tout pour Quentin Tarantino, en même temps qu'il fera la gloire du studio Miramax en tant que producteur et distributeur de Fahrenheit 9-11 notamment, Palme d'Or en 2004 remise par Quentin Tarantino, ou encore de The Artist et ses 5 Oscars. C'est moi qui l'ai bâti, Miramax. Je suis leur Mickey Mouse, paradra Tarantino, avant, bien sûr, que Weinstein ne connaisse la chute que l'on sait en octobre 2017, en raison des agressions sexuelles commises par lui sur de nombreuses femmes. Pour en revenir à Pulp Fiction, son auteur déclara au New York Times « Je crois que j'étais mentalement préparé au succès. J'ai toujours pensé qu'avec une filmographie conséquente, j'atteindrais un niveau de respectabilité, que mon travail aurait de l'importance et que je marquerais l'histoire du cinéma. J'ai toujours imaginé faire sensation. Je ne pensais simplement pas atteindre mes objectifs en seulement 2 films. Mais j'ai toujours aspiré au succès. Et plus on a de succès, plus on a de pouvoir. » Je n'ai pas besoin de convaincre une star de cinéma de jouer dans mon film pour le réaliser. Et c'est ça le vrai pouvoir, ne pas avoir besoin de l'accord de Tom Hanks ou de Tom Cruise pour faire un film. Ce qui ne veut pas dire que je ne les voudrais pas, mais ce serait mon choix. Je veux me suffire à moi-même, c'est là mon pouvoir. Pour Tarantino viendront ensuite Jackie Brown en 1997, tourné dans la South Bay de Los Angeles, le quartier de son enfance, Kill Bill en 2003, Inglourious Basterd 6 ans plus tard, ou encore Django Unchained en 2012, son plus gros succès commercial. En 2015, toujours réfractaire au numérique, il se paiera le luxe de filmer The Hateful Eight, les 8 salopards, en 70 mm. Je suis au service du celluloïde, pas du numérique, c'est pas du cinéma, le numérique, mais de la télévision en public. Si on me demande d'aller dans une salle pour voir un DVD, je ne vois pas l'intérêt. En 2019, avec Once Upon a Time in Hollywood, il signera son 9e film, en ne faisant qu'un selon sa volonté, des 2 volets de Kill Bill. Il lui reste donc un ultime opus à délivrer selon ce qu'il a depuis longtemps confié, 10 films, pas un de plus. un metteur en scène passe difficilement le cap de l'âge, justifiera Tarantino. Il suffit de regarder l'histoire du cinéma pour observer cette évidence. Regardez la carrière des grands metteurs en scène. Leurs derniers films sont souvent les plus mauvais. Vous avez vu Buddy Buddy de Billy Wilder ? Ce grand réalisateur ne comprenait plus rien à son époque. Je ne peux pas me permettre d'en arriver là. Metteur en scène est un métier à exercer jeune, dixit Tarantino. Et à propos de jeunesse, il semble que Quentin fantasme parfois sur un adolescent qui, 20 ans après sa mort, découvrirait l'un de ses films. Je me dis que ça pourrait lui plaire, qu'il ferait même attention à mon nom et serait tenté d'en regarder un autre, au point où il ne s'arrêterait plus. Et bien voilà, notre voyage à travers le parcours de Quentin Tarantino se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire connaître, à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.